Eh bien bonjour à tous pour cette table ronde pendant l'heure du repas. Donc bon appétit à tous aussi. Je suis heureux d'accueillir donc Jean-Noël Lafargue et Daniel bonjour. Tron qui vont se présenter. Et nous allons parler donc de bande dessinée essentiellement et d'une nouvelle collection donc qui a fait quelques titres et qui a fait un petit peu couler d'encre à son propos et dont le Festival des Utopiales vous propose une petite exposition d'un aperçu sur 4 albums donc à l'entrée du festival que je vous invite à aller voir ensuite parce que vous y trouverez des petites perles et des petits détails que l'on ne peut pas vous montrer ici et donc je vous invite à regarder cette exposition et à découvrir ensuite les bandes dessinées et les livres qui sont de cette collection. Donc Jean-Noël Lafargue, donc Daniel Tron, bonjour.
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 Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et ensuite nous expliquer un petit peu comment est née cette folle idée d'une BD Tech des Savoirs?
Vas-y. Bon, alors je suis donc Jean-Noël Lafargue. Je suis enseignant en art, en école d'art et de design, et j'enseigne la programmation à mes étudiants. Et je m'intéresse beaucoup à l'histoire culturelle de l'informatique. J'ai un blog où j'en parle assez souvent. Je m'intéresse aux fictions, mais je m'intéresse aussi à l'histoire des techniques elles-mêmes. Et on m'a proposé de faire un des volumes de la petite BD Tech. Je vais vous en parler plus tard, je pense.
Voilà, moi je suis donc enseignant d'anglais, je suis chercheur en littérature et cinéma, de science-fiction en particulier. Et bon, à part avoir organisé il y a quelques années, co-organisé un colloque sur intelligence artificielle, notamment donc en littérature et puis refaire un truc sur le cinéma, j'ai un autre axe de recherche qui est l'utilisation de la science-fiction notamment ou des formes populaires en fait en enseignement, dans lequel ce genre de projet, donc je ne suis pas impliqué directement mais rentre totalement, c'est-à-dire ces idées de se servir ou comme ici, comme le fait Marlon Montaigne sur les sciences, d'un univers de science-fiction ou sur des formes comme la bande dessinée. Je veux dire, comment on peut intégrer ça, je veux dire, à des cours pour la transmission des savoirs et ce qu'elle fait depuis très longtemps et puis plus particulièrement sur l'intelligence artificielle qui est quand même un des gros axes actuels, un des thèmes majeurs au cinéma de SF depuis quelques mois. On a eu énormément de sorties, beaucoup plus qu'avant. Je veux dire, avec le meilleur comme le pire. Le pire, on peut mettre Lucy, puis au meilleur, on va mettre Her de Spike Jonze. Et j'ai découvert, moi, relativement tard, effectivement, la soirée, qui est tout à fait récente et qui est assez super intéressante. Mais moi, ce que j'ai envie d'entendre d'abord, comme vous, en fait, c'est l'histoire de l'historique de cette collection.
Oui, alors, du coup, Jean-Noël, donc, vous ne connaissiez pas avant, hein, puisque donc, tu connais, toi, les volumes. Ouais. Et ce volume donc, consacré à l'intelligence artificielle, donc, qui est montré en bas en exposition. Mais Jean-Noël, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique de tout ça, en fait? Comment s'est fait le premier contact, déjà, avec la collection? Et puis la collection elle-même, puisque je crois avoir compris que tu étais un des seuls auteurs récidivistes.
Oui,
donc, comment est née la collection? Et quelle est cette idée folle au départ? Parce que moi, je trouve quand même que c'est une idée assez folle de créer encore cette belle collection sur un support papier à l'heure où le papier n'a plus tellement le vent en poupe. Donc comment tout ça est né?
Alors, je peux raconter plein d'anecdotes autour, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans tout un mouvement, en fait. Il y a tout un tas de livres qui sortent. Déjà, il y a plusieurs collections. Il y a une autre collection qui est excellente qui s'appelle Sociorama chez Casterman et qui est de la sociologie en bande dessinée. C'est extrêmement sérieux. Et l'idée, c'est pas de faire de la bande dessinée dans tous ces cas didactique, un peu bête comme autrefois où on prenait un bon dessinateur, un bon scientifique et on leur faisait faire vaguement une bande dessinée. Mais c'était pas ni de la bande dessinée, ni des sciences, ni rien. Là, l'idée, c'est de faire travailler les gens ensemble assez intelligemment, de prendre des vraiment bons auteurs de bande dessinée et puis... Et puis voilà, il y a tout un tas d'autres livres. Par exemple, il y a le livre Le mystère du monde quantique de Mathieu Burnet, dont il y a une conférence dessinée tout à l'heure, qui est un jeune homme qui est là-bas, qui est très très doué, qui marche très très bien aussi. Il arrive à parler très bien de la physique quantique. Et ça a beaucoup plu. Et cette collection aussi plaît beaucoup. Finalement, voilà, quand on fait des choses bien et sérieusement, ça marche assez bien. Parmi les gens qui ont vraiment réussi des choses, il y a eu sans doute la bande dessinée Logic Comics, que certains connaissent peut-être, par des auteurs grecs et qui parlent de la logique, de l'histoire de Bertrand Russell et d'autres logiciens. Et puis il y a bien sûr le travail de Marion Montaigne, avec Tu mourras moins bête. Et c'était assez logique que la collection commence avec Marion Montaigne, même si c'est un petit peu un hasard. Donc la collection a été lancée par une éditrice du Lombard qui s'appelle Nathalie Van Kampenhout, et puis par un auteur de bande dessinée qui là est directeur de collection, qui est David Van Der Meulen. Et à eux deux, ils ont eu cette idée d'une collection un peu précieuse. Comme ça, vous voyez, les livres sont assez jolis, cartonnés, avec des cahiers cousus, etc. C'est vraiment des livres assez agréables à utiliser, texturés, etc. Avec un papier crème, enfin bon. Donc, des jolis livres. C'est vrai, ils sont beaux. Ouais. Donc voilà, quelque chose d'assez précieux qui soit fait pour durer. C'est pas fait pour être vendu comme ça et puis oublié. L'idée, c'est qu'il soit réédité régulièrement, que ça soit des ouvrages de fond. Parce que la vraie ambition là-dedans, c'est pas de faire les sciences pour les nuls, les sciences en bande dessinée, un petit peu comme on l'aurait fait dans les années 70, assez mal finalement. L'idée, c'est vraiment plutôt de faire des que sais-je en bande dessinée, que le contenu scientifique soit valable. Et à chaque fois, il y a un grand spécialiste, un vrai auteur sérieux qui est embauché avec un vrai auteur de bande dessinée. Il n'y a qu'un seul cas d'imposture dedans, qui est moi. voilà. Puisque moi, je ne suis pas un vrai spécialiste. David Van Der Meulen, je le connais depuis très longtemps sur Internet. Et j'ai même participé à un de ses livres. J'avais fait une postface à une bande dessinée adaptée de Michel Verne, le fils de Jules Verne. Et bon, donc on se connaît bien. Et il aime beaucoup ce que je raconte sur l'histoire culturelle de l'informatique en général. Et il m'a lancé là-dessus. Puis petit à petit, c'est devenu l'intelligence artificielle, qui n'est pas un domaine que je maîtrise d'ailleurs. Et donc on a fait avec Marion Montaigne, qui elle est très sérieuse, on a fait une vraie enquête, on est allé voir des gens dans des laboratoires, on a discuté avec énormément de gens, et donc c'est même plutôt le fruit d'une enquête, c'est un peu spécifique. Les autres albums sont en général par des grands spécialistes, par exemple il y a Les Requins, qui est là, par Bernard Serret, c'est le plus grand spécialiste mondial des requins, c'est un type incroyable. Il y a eu au moins 20 requins qui portent son nom, ce qui est quelque chose. Et quand on a fini ce livre, on sait absolument tout sur les requins. Il n'y a rien qu'on a à apprendre dessus. Et c'est le cas pour tous, à chaque fois, c'est vraiment des grands spécialistes. Parfois des spécialistes un peu controversés, comme Nathalie Heinisch, qui s'occupe de la sociologie de l'art contemporain. Voilà, il y a de tout. Là, il manque un numéro, il manque le féminisme que je vous conseille, qui est très très bien, qui vient de sortir. Et en moyenne, il y a un album qui sort par mois. En fait, 4 albums tous les 3 mois. Voilà, la série, je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, où David Van Der Meulen me demandait comme ça si j'avais des idées de catégorie pour un travail encyclopédique du genre. Bon, on en a discuté, et puis... je ne savais pas du tout que ça allait aboutir à ça. Et puis, il m'a embauché pour en faire un. Et puis, finalement, il m'a embauché pour en faire un deuxième qui sortira, lui, plutôt dans 6 mois. Et que je fais avec Mathieu, le jeune homme talentueux que vous voyez là-bas. Voilà.
Alors moi, je rebondis sur tes auteurs sérieux. Là, j'en prends un au hasard, donc, hein, le Heavy Metal. Véritable institution en Belgique, le bruxellois Jacques de Pierrepont, dit Pompon, aura été l'une des voix les plus emblématiques de la RTBF. Alors, comment se fait le choix, en fait je dirais des auteurs au départ, enfin des auteurs, des sujets en fait au départ, parce que quand on traite des requins au heavy metal en passant par les intelligences artificielles, on se dit ils vont jamais s'arrêter.
Non, l'idée c'est de jamais s'arrêter, c'est comme que sais-je finalement, c'est le même principe, il peut y avoir tous les sujets et on va avoir beaucoup de surprises dans les sujets qui arrivent, il y en a beaucoup qui vont arriver, qui vont être très intéressants. Voilà. Ils sont pas encore notés, je pense. Et donc Jacques de Pierrepont, nous en France on le connaît pas spécialement, mais en Belgique il est vraiment très connu et il connaît tout sur son sujet. Et une fois qu'on a fini le livre, on connaît aussi tout sur le heavy metal, c'est vraiment.
Alors, vous verrez si vous feuilletez les livres en librairie ou si, aux merveilles, vous les achetez tous d'un coup, vous verrez au niveau de l'esthétique en fait. Hein, c'est vrai que donc chaque livre fait l'objet d'un traitement particulier parce que c'est un dessinateur différent et autres. Si on se base, là toutes les pages par exemple sont plus branchées pochettes 70 entre punk et metal, quoi, je dirais. On a une esthétique relativement adulte en fait.
Oui,
quand même dans le traitement de la bande dessinée, on a l'impression au départ quand on voit les planches en premier, on se dit bon, ok, ils se sont trompés, c'est en littérature jeunesse, il n'y a pas tellement de lecteurs de 7 à 8 ans dans le coin. Et en fait, on s'aperçoit que ça s'adresse quand même aux plus âgés.
Oui, oui, il y a très peu de tomes. On me demande souvent si c'est fait pour les enfants, si ça convient. Par exemple, l'histoire de la prostitution, je ne conseille pas pour tous les âges. C'est, même si ça reste gentil, hein, mais le thème est dérangeant en lui-même quand même, un minimum.
Quel était le spécialiste?
Le spécialiste, c'est Laurent de Sutter, qui est un philosophe assez, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui a travaillé avec Agnès Maupré, qui est une excellente dessinatrice que j'ai eue comme étudiante. Ouais. Mais, et pas complètement par hasard, qui a été embauchée là-dedans. Où il y a des tomes comme le minimalisme, je pense que quand on a 10 ans, ça passe au-dessus de la tête. On ne va pas s'intéresser beaucoup aux architectures de Miles van der Rohe, ou je sais pas. Mais les requins se lient à tous les âges. Voilà. Chaque tome est vraiment différent, a un langage différent. Il y en a qui sont vraiment des fictions. Pour l'intelligence artificielle, on a vraiment pris le parti pris d'une fiction qui fait des clins d'œil récurrents à Terminator, au voyage dans le temps, etc. Parce que voilà, c'est l'album, ça s'y prêtait comme ça. On ne voulait pas faire quelque chose de trop progressif. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont assez secs, comme le droit d'auteur. Où là, l'auteur de bande dessinée était vraiment pas servi par le sujet. Dans un sens, c'est un sujet très sec. Le droit d'auteur, c'est relativement ennuyeux. Il a réussi à en faire quelque chose de bien. Mais on apprend les choses très, très progressivement. C'est pas une fiction du tout. Voilà.
Et alors, Daniel Tron, entre guillemets, en spécialiste, entre autres, d'intelligence artificielle, comment est-ce que tu perçois ce type de sujet abordé en bande dessinée de cette manière-là? Est-ce que... Je dirais de l'extérieur, on se demande est-ce que ça sert le sujet ou est-ce que ça risque de le desservir. Enfin, il y a quand même ce danger de faire passer un sujet entre guillemets sérieux pour une franche rigolade. Comment est-ce que tu perçois ça et par rapport aux images, quoi, l'art séquentiel en bande dessinée, ça se retrouvera au cinéma. Ça, on peut osciller entre les deux. Comment un sujet tel que les IA, par exemple, en bande dessinée, pourrait rivaliser avec le sujet abordé au cinéma, par exemple?
Au cinéma, c'est facile, parce qu'on n'a pas grand-chose qui corresponde à la réalité au cinéma. Si je prends les productions qu'on a là récemment, dans les grosses productions, on a eu Ex Machina, par exemple, qui est arrivé, qui est un film qui est bourré de qualité, qui est très sympa, mais à la base, c'est juste un test de Turing matiné de Philip K. Dick. C'est un huis clos, c'est intelligent, c'est bien produit, les effets spéciaux sont là où ils doivent être, c'est-à-dire sur elle, mais on est sur quelque chose d'assez de bien fait, mais de complètement classique en SF. Je veux dire, c'est vraiment, voilà, c'est un test de Turing avec une mise en scène, avec un petit twist dickien derrière d'une fille aux cheveux noirs, avec une ambiguïté finale où on ne sait pas si effectivement elle l'a passé ou pas. C'est assez simple. De manière beaucoup plus intéressante, on a eu Her. Là, on a du Spike Jonze, c'est un film extrêmement bavard, et là, on a quelque chose qui effectivement va plus loin. Parce qu'on a le développement vraiment d'une interdépendance. On décolle directement de notre univers à nous, c'est-à-dire qu'on est au balbutiement pour l'instant. On a Siri, on a Cortana, on a des choses comme ça qui sont avant tout du marketing pour l'instant. Il n'y a pas de vraie IA derrière. Les vraies IA actuellement, celles qui rapportent le plus d'argent et qui mobilisent le plus de recherches, et c'est ce qui est dit d'ailleurs très bien mis en scène dans la BD, c'est des choses absolument pas glamour ou très compliquées à mettre en récit. La manière dont Google, quand on tape trois mots, va vous proposer une série de choses automatiquement, ça c'est un enjeu majeur des intelligences artificielle aujourd'hui. Ça n'a aucun intérêt de récit. Si on prend une vieille problématique de surveillance généralisée, de robot qui devient fou ou autre, là, bon, on a quelque chose de beaucoup plus hollywoodien et de beaucoup moins réel. Ce qu'aborde la BD notamment, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est un modèle économique où on est quand même beaucoup plus libre. La collection, le principe même de la collection, avec des auteurs qui amènent leur propre type de narration, on est déjà un premier signe. Et là, on a le temps. Alors, il y a le travail évidemment de Jean Noël et on retrouve Marion Montaigne dedans, qui est l'idée d'avoir un fond qui est tout à fait précis. Et elle a une vraie culture du cartoon et une vraie culture de la chute. C'est-à-dire qu'en très peu de planches, elle va réussir à monter des gags, à faire comprendre des choses. Il y a notamment un moment, elle explique, il y a la différence entre les anciennes méthodes. C'est-à-dire ce qu'on imaginait être un robot avec une intelligence artificielle, c'est le robot programmé, qui a un ensemble de fonctions, mais qui a tellement de fonctions qu'on a l'impression qu'il est merveilleux, qu'il est intelligent. C'est Robbie dans La Planète Interdite qui émerveille tout le monde parce qu'il est capable de synthétiser 20 litres de whisky et qu'est-ce qu'on est content parce qu'il n'y en a pas sur la planète. C'est le vieux principe du robot qui à un moment va devenir un psychopathe. Donc ça, c'est génial pour Hollywood parce que le film de psychopathe, ça plaît toujours. Ça évite de raconter un truc intelligent. Ou c'est un trip à la Lucie où on va dire, tiens, je vais faire un film sur intelligence artificielle alors qu'en fait, je fais une histoire décérébrée de super-héros en prenant que des scènes clichés qui finissent sur une clé USB cosmique pour nous révéler les secrets de l'univers. Bref, on est dans du n'importe quoi. Pour faire un film qui commence à être un peu réaliste sur intelligence artificielle, on passe à Spike Jonze, un film hyper bavard. Ça se passe pendant 2h30, c'est intimiste, il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas un vaisseau spatial, il n'y a pas le bout de la queue d'une vénusienne à trois seins pour venir relancer l'intérêt, il y a juste la voix de Scarlett Johansson.
C'est vrai qu'en bande dessinée, c'était un peu moins sexy. Ouais.
Quand même, hein, ça marche pas très bien. Et alors là, ce qu'on apporte, c'est justement, c'est comme on a une vraie liberté de ton, on peut mettre en scène de plein de manières différentes les concepts. Et la BD a une souplesse énorme parce que justement, on peut lire dans une BD. C'est-à-dire que s'il y a un moment, on est sur un sujet comme le droit d'auteur ou comme sur IA, on a le droit de rajouter un peu de texte. On a le droit en plus de le séparer. C'est-à-dire qu'on peut développer des choses assez complexes sur l'ensemble de 3, 4, 5 planches où on va amener progressivement des notions assez complexes. Là, je prenais mon exemple tout à l'heure que j'avais oublié entre-temps de justement cette différence qu'on va avoir entre ce qu'on pensait être une intelligence artificielle, c'est-à-dire un programme de contrôle qui va prévoir absolument toutes les possibilités de comportement d'une créature. Jusqu'à récemment, c'est ça qu'on avait en tête. C'est l'inverse de l'intelligence artificielle, ça. Ça, c'est un programme. Il ne peut pas sortir du programme. Il y a intelligence artificielle à partir du moment où, justement, celui qui crée son intelligence artificielle ne prévoit pas tous les cas. Et où ce qu'il crée, qui en gros va revenir à un système de régulation de fonctions de base, va être capable de lui-même de trouver la manière optimum de réguler ses fonctions de base. Et là, voilà, comme je suis pas en BD, je regarde devant moi et j'ai des mouvements de sourcils, des regards sur le côté, genre, comment ? Quoi ? Je vais prendre un exemple, parce qu'elle le prend dedans et qui est très bien. Je vais prendre le rover martien. Le rover qui était fait pour tourner, je sais plus combien, c'était 3 semaines, 2 mois, je sais plus. Ça fait 4 ans. Il est encore en train de prendre des photos, il a fait 14 km, c'est un truc complètement incroyable. Et il a des systèmes, c'est-à-dire qu'il a un système avec un gyroscope, faut qu'il reste droit, faut pas qu'il dépasse tant d'assiettes. Et puis il a un autre système qui doit s'orienter, qui doit orienter les panneaux. Puis il a un autre système qui va gérer le rechargement de ça. Et puis il a un autre système qui va gérer le bras. Alors, comment le bras tient ? Et puis il va falloir qu'il aille jusque là. L'IA là-dedans, c'est aucun de ces systèmes-là. L'IA, c'est un système qui est au milieu, qui sait qu'il doit gérer en même temps la sortie du bras vers le caillou, en progressant par là-bas, en gardant la batterie donc dans une zone acceptable. Et puis le panneau, faut qu'à telle heure il soit sorti comme ça, faut que ma caméra elle se bouge. Et puis j'ai tant de délais qui vont m'arriver d'ordre. L'IA, c'est le truc qui est au milieu, qui va faire en sorte que tous ces sous-systèmes réussissent à coexister entre eux. C'est pas sexy, hein? Mais ça, c'est de l'IA. Le truc qui fait quand on tape un truc sur Google, c'est pas le cookie qui va nous mettre la pub qui correspond à ce qu'on a vu à côté. Ça en fait partie, mais ça, c'est de la programmation classique. Non, le truc qui va vraiment être de l'IA, c'est le truc qui va, à partir d'une recherche de 2-3 mots-clés, va me mettre les mots qu'il y a derrière. Il va prédire ce que je vais vouloir. Et puis après, il va aller plus loin, parce que maintenant, on est tous obligés depuis quelques mois de signer le truc Google. Vous savez, si vous n'y êtes pas allé depuis très longtemps, si vous allez sur Gmail ou autre, hop, vous avez une page de conditions. Il faut dire oui maintenant. C'est pas pour rien, parce que justement, on va étendre les données. Donc, on va aller voir dans le profil Google. Cette personne aime ça, aime ça, aime ça, aime ça. Donc, comment est-ce que je vais réussir à non seulement prévoir son comportement pour augmenter la valeur ajoutée des données marketing que je vais vendre, mais surtout, comment est-ce que je vais réussir à optimiser le nombre de clics qui va aller sur les partenaires qui m'intéressent? C'est-à-dire que Google fonctionne avec justement le système de référencement avec les partenaires. Si je clique sur tel lien recommandé par Google, Google gagne de l'argent. Comment est-ce que mon moteur de recherche va réussir à prédire de manière la plus exacte le comportement de celui qui clique afin que, par retour, il clique plus sur ceux à qui je vais monnayer des espaces publicitaires dans le truc. Une grosse partie de l'IA actuellement, c'est ça. Raconter en film, c'est pas évident. En BD, ça marche mieux.
Et lorsque l'un et l'autre vous attaquez à un projet qui nécessite par exemple une représentation graphique donc d'une IA, vous n'avez pas juste l'impression de d'un gros mensonge commercial finalement, parce que mettre l'IA disons d'une manière sexy comme avec le Ex Machina par exemple ou d'autres types de représentations comme ça,
On descend, on a le droit
c'est
de
quand même
faire,
survendre hein, le produit quoi, parce que le vrai produit lui il n'est pas sexy quoi.
En dessin, on a le droit de tout faire, y compris montrer des choses conceptuelles. On a mis des petits schémas, des choses. au début, moi, je partais sur des problèmes, des vrais problèmes d'intelligence artificielle, comme la question de P égale NP, qui est un truc dur à expliquer, dur à comprendre pour moi. C'est un vieux problème mathématique que ne résout pas l'intelligence artificielle et qui serait le moment où on passerait à un nouveau cap. Et on a commencé à écrire des pages là-dessus, mais ça ne marchait pas. Donc voilà, Marion pensait qu'il fallait qu'on parte sur ce qui intéresse les gens aujourd'hui, notamment les robots. On voit tout un tas de robots qui arrivent à faire des choses qui ont l'air incroyables. Est-ce que c'est vraiment incroyable ? On a rencontré une équipe qui travaille sur un petit robot à six pattes qui sait aller d'un point à un autre. On lui dit « pars d'ici et va là-bas », il y arrive. On lui casse une patte, il n'a pas de capteur qui lui permette de savoir quelle patte est cassée, il ne sait pas ce qui lui arrive, ni rien, il constate juste qu'il se décale et qu'il n'arrive pas à arriver au bon endroit. Et les gens de l'université Marie et Pierre Curie qui ont travaillé là-dessus, à l'ISIR, c'est un laboratoire extraordinaire, lui ont mis dans la tête la capacité à modéliser tout un tas de marches. Il les imagine en 3D, il les rêve un petit peu, et en quelques secondes, il trouve la bonne, celle qui va lui permettre d'arriver où il veut. Voilà, ça c'est de l'intelligence artificielle assez graphique, ça peut se représenter. Il y a d'autres choses qui ne se représentent pas vraiment, les arbres de connaissances, etc. C'est un peu différent. Mais je pense qu'on a réussi justement avec cet axe des robots, en parlant un peu du transhumanisme qui est très à la mode, et voilà, à faire des choses qui aient un intérêt visuel. Voilà.
Et est-ce que dans les prochains sujets, est-ce qu'il va y avoir des sujets qui vont se recouper les uns les autres, par exemple ? Parce que, par exemple, un de tes prochains sujets, c'est Internet. Daniel parlait de Google, forcément. Donc, à un moment donné, il y a forcément des choses qui peuvent se recouper.
Oui, oui. Par hasard, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent des choses qui passaient d'un livre à un autre, même dans des sujets très, très différents. Donc, très vite, ça fera ça. Pour Internet, évidemment. Évidemment. Ce qui est intéressant sur l'intelligence artificielle des interfaces dont tu parlais, c'est que les recherches se font pas là où on croit. Par exemple, quand vous faites une demande sur un navigateur quelconque, enfin pas un navigateur, mais vous êtes sur un site, vous demandez quelque chose, vous rentrez un mot de passe, il y a un petit temps de latence avant que la page qui doit arriver arrive. Et ce temps de latence, ça a été calculé notamment par des intelligences artificielles qui testent plusieurs choses sur plein de gens et qui voient ce qui marche le mieux. On a calculé que c'était moins anxiogène pour les gens que l'interface mette un petit temps avant d'amener la page qu'on est allé chercher. Voilà. C'est l'intelligence artificielle dans la pratique, industriellement, travaille sur ce genre de choses et sur plein d'autres en fait. Mais souvent, quand quelque chose fonctionne en intelligence artificielle, par exemple la reconnaissance des visages ou des caractères d'imprimerie, etc., ça sort de l'intelligence artificielle, ça devient de l'informatique bête et méchante, ce qui est assez étonnant.
Et est-ce qu'il y a des sujets qui passent, enfin qui, à votre sens, ne sont pas encore assez passés dans le grand public en termes d'explication, des choses qui restent encore très nébuleux et qui pourraient passer, en fait, qui seraient rendus accessibles par la bande dessinée.
Alors là, je vais parler de nos concurrents, de Sociorama, par exemple, qui font de la sociologie. Je pense que lire une thèse de sociologie, c'est assez sec. La sociologie du travail, en général, c'est assez sec comme ça. Mais en bande dessinée, ça marche extraordinairement bien. Je pense qu'on ne peut même pas mieux le faire, en fait. Donc, dans chacun de ces livres de Sociorama, il y a le cas d'une personne qui arrive dans un milieu, qui le découvre, et puis c'est une fiction. Et ça marche vraiment, vraiment très bien. Voilà. Je pense que chez nous, il y a aussi des sujets qui ne passent peut-être pas bien dans d'autres cas, mais il faut voir. Une de nos références, c'est aussi les découvertes Gallimard. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection qui était très bien. Là, c'était de l'iconographie photographique, de l'histoire de l'art, des choses comme ça. L'image comptait énormément. Il y a des choses, sans doute, où sans l'image, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il faut voir. Après, c'est une tournure d'esprit aussi. Il y a des lecteurs pour qui des choses sans image sont très, très bien. Et puis d'autres pour qui c'est plus difficile. J'ai écrit un livre d'histoire de la bande dessinée sans image. Et pour plein de lecteurs, c'était difficile.
Alors juste par rapport à l'esthétique de sujets un petit peu secs traités en bande dessinée ou en image, en fait, parce que le problème de l'image, c'est que ça reste quand même destiné à un jeune public.
Oh, je sais pas.
Il y a quand même cette, cette orientation. C'est la difficulté des artbooks, par exemple, d'illustrateurs, des choses comme ça. Par exemple, pour parler d'illustration, un domaine que je connais un petit peu, il y a toujours ce petit côté. Un roman illustré, par exemple, très illustré. On a l'impression que c'est destiné à un plus jeune public qu'un roman juste avec le texte. Donc là, je vois, il y a des sujets qui sont presque réservés à des plus de 16 ans, quoi, en fait, hein, quasiment. On connaît tous, on a tous autour de nous un ado qui, je dirais, qui commence à arrêter de lire pour se taper des séries au kilomètre et puis des SMS au kilomètre. Vous n'avez pas un tout petit peu la crainte que un ado est un petit peu soit un peu récalcitrant à sortir un bouquin pareil dans le métro, par exemple?
On s'est pas posé la question comme ça. Il faudrait demander au directeur de public. Je sais pas.
Moi, j'y crois pas, moi. Il y a un côté actuellement qui, moi, met hors de moi. C'est justement cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a tendance, alors on l'a toujours fait, mais actuellement c'est vraiment très prégnant, de mettre le jeune public dans des cases pour lesquelles il faut simplifier les choses, machin truc. Un truc par exemple qui moi me hérisse le poil, c'est toute la catégorie jeune adulte. On va faire de la littérature jeune adulte. Je trouve ça vous me permettez, qu'est-ce que c'est con comme idée? Mais pourquoi faudrait simplifier le truc? Pourquoi? Mais il y a vraiment besoin, je veux dire, de les prendre pour des abrutis. Pourquoi ils seraient plus abrutis? Mais si on est tous persuadés qu'ils sont effectivement incapables de choper du vocabulaire complexe, qu'ils sont incapables de se taper les mêmes classiques que nous, il y a encore 15 ans avant, oui, à force, on va en faire des cons qui n'ont pas de vocabulaire. C'est pareil, la BD, on est dans la chance d'être dans un des rares coins du monde où on reconnaît la BD comme une forme d'art, où normalement elle n'est pas déconsidérée, moins que dans le public. On va pas se retenir, parce qu'il y a une frange infime du pays, très bien installée dans des hiérarchies déjà complètement démodées de la culture, qui vont nous expliquer que s'il y a de l'image, c'est pour les trous du cul, c'est pour les petits. Waouh, l'histoire de l'art sans image, c'est pourri. Enfin, je veux dire, soyons clairs, si je prends le public général, je vais voir des gens du prix Nobel, on leur demande de m'expliquer la différence entre Copernic, Galilée et la relativité, à mon avis, on va être rigolé sur les résultats. Donc, autant leur donner une bonne BD, qu'ils arrêtent de nous gonfler en nous prenant pour des cons, et on peut être tout à fait cultivé, ça dépend absolument pas de la forme qu'on est en train de dire, ça dépend du regard et de la curiosité qu'on a pour elle. Et voilà. Pardon.
Tout va bien.
Je peux continuer?
Pour le prix Nobel, peut-être ça a changé.
Oui, je n'ai jamais lu de littérature pour jeunes adultes, mais elle est moins bien ou c'est juste une catégorie marketing?
Hunger Games, Divergente, oui. Je prends le truc au cinéma.
Je connais que les films. Hein.
En fait, c'est... On va stéréotyper les trucs. Je prends juste une dernière anecdote. Un auteur que je connais très bien ici, enfin c'était Claude Aiken qui m'en parlait. Je veux dire, il était en train d'écrire un bouquin. On lui dit, ah ouais, mais Smola quand même, tu te rends compte? Une question récente. On lui posait pas la question il y a 20 ans, mais Smola, ils le connaissent pas. Mais il a une réaction. Mais comment voulez-vous qu'ils le connaissent un jour si de toute façon on édulcore ce qu'on leur donne? Enfin, pourquoi? Je veux dire, on est dans un pays où on n'hésite pas à faire lire des trucs comme le Lys dans la Vallée à des cinquièmes, alors que c'est un suicide pédagogique. Mais à côté de ça, quand ils lisent des trucs pour se détendre, faudrait que ce soit des trucs complètement stéréotypés avec 200 mots de vocabulaire. Arrêtons de les prendre pour des cons, on va se rendre compte qu'ils sont tout à fait aussi intelligents.
Il n'y a pas d'éditeur dans la salle
Mais... Et c'est une politique générale, faut pas se faire peur, faut que ce soit facile. Pareil, on fait lire des versions réécrites, simplifiées. Ouais. Mais bon sang, si on a aimé ce bouquin, s'il a traversé les siècles, c'est parce qu'il était bien écrit.
Bon, mais il y a une vieille culpabilité du mélange image-texte. Ouais. L'image toute seule, ça va. C'est l'art, quoi. Ça marche généralement. Le texte tout seul, ça va. Puis image-texte, et alors image-texte-narration, il y a quelque chose, ça ramène effectivement à l'enfance, ou pas forcément à l'enfance, mais encore pire, à l'enfance attardée. Enfin, du coup, les gens sont souvent un tout petit peu méfiants, mais en l'occurrence, nous, on a fait le travail bien. Et effectivement, en France, il y a quand même beaucoup de gens qui lisent de la bande dessinée, qui savent que ça va, quoi. Voilà. Et donc,
il y a quand même encore cette idée que la bande dessinée, c'est pas un livre. On rencontre ça. Alors, peut-être pas dans le festival, on est d'accord.
Non, mais j'ai vu ça il y a pas longtemps, je discutais et puis je parlais d'un livre, justement, je disais, ah, machin a fait un très bon livre, et puis la personne qui était en face de moi m'a dit, mais attends, tu parles d'une bande dessinée? Ça reste un livre, quoi. Si un livre de cuisine est un livre, je vois pas pourquoi une bande dessinée n'est pas un livre. Il y a pas vraiment de problème avec ça. Donc voilà, mais il y a aussi une tradition française en France. Quand la bande dessinée a commencé, On séparait l'image et le texte. C'est le sapeur camembert, les premiers pieds nickelés, bécassines, etc. Et c'est les Américains qui ont amené le texte à l'intérieur des images. Et y avait une petite méfiance, quoi. Et on a gardé cette séparation assez longtemps. Et voilà, on trouve ça un peu impur, peut-être, ou je sais pas. Bon, bah voilà, nous on fait de la bande dessinée.
Mais ça, c'est peut-être. Enfin, je reviens un petit peu sur ce que disait Daniel, c'est quand même. Une première volonté commerciale des éditeurs qui ont amené aussi, quand on voit la masse de bandes dessinées en France, même si effectivement c'est quand même un des derniers pays où c'est un art défendu et bien diffusé, du coup ça occulte un petit peu la part créative de la bande dessinée, parce qu'en fait moi, enfin, le cadre de la bande dessinée il est encore à explorer, il est encore à éclater quand on voit ce que fait Marc-Antoine Mathieu par exemple ou d'autres types de créations complètement dingues. On se dit que tout est encore c'est encore un terrain vierge dans lequel on peut encore découvrir des créations, mais qui est noyé effectivement par bon, on va pas citer d'éditeurs, mais
il y a une très grosse production, mais à vrai dire une production de très très grande qualité. Et ça me gêne, moi, quand je vais en librairie, j'ai envie d'acheter des dizaines de choses et c'est impossible, il y en a trop en fait. Il y a beaucoup trop de choses. Par exemple, Le Monde Quantique de Mathieu Burnier, je vous le conseille vraiment. Je fais beaucoup de réclames pour ce jeune homme, je le trouve très bien. Et notamment, tu demandais tout à l'heure s'il y a des choses impossibles à expliquer autrement qu'en bande dessinée. J'avais déjà lu pas mal sur la physique quantique, et à vrai dire, je comprenais vaguement. Mais là, avec sa bande dessinée, je comprends, et je comprends notamment que les scientifiques ne comprennent pas tout. C'est ce qu'il explique très très bien. Et donc voilà, ça c'est un cas où en tout cas la bande dessinée m'a servi, alors que d'autres littératures n'y arrivaient pas.
En fait, l'idée, c'est quand même d'avoir une variété de choses. Quand je hurlais tout à l'heure, mais un livre de fond, ça peut être très bien. Une BD, ça peut être très bien. Un très bon doc, ça peut être très bien. Une belle histoire, ça peut être très bien. Parce que je me moquais tout à l'heure de l'idée du robot, notamment pour revenir un peu à IA, mais c'est pas idiot parce que on se nourrit d'un récit aussi. On a besoin qu'on nous raconte des histoires. Et prendre le cas d'un robot au départ, ça permet de personnaliser, de raconter une histoire à partir de plein de concepts qui sont abstraits derrière, et c'est pas forcément une mauvaise idée en soi. Mais on a besoin, en fait, je pense, pour diffuser ces savoirs-là, on a besoin d'une variété de supports. Deux personnes différentes, on va leur mettre deux bouquins sur deux formes différentes avec exactement le même contenu. Il y en a un, la BD va lui tomber des mains. Par contre, il va bouffer le truc super aride où on se dirait mais jamais il va aller au bout. Et celui d'à côté va pas dépasser l'intro du bouquin, va bouffer la BD. Et on va se rendre compte au final que ils vont en être pas très loin du même point, voire avec des choses complémentaires. Il faut que les deux existent. Et c'est ce que tu disais sur la production de BD. On a un paradoxe quelque part actuel avec une production absolument pléthorique où des collectionneurs un peu comme moi, on n'arrive pas à suivre, effectivement. Et on peut avoir cette impression comme ça que, bon sang, il y a beaucoup de choses. Et en même temps, on n'est jamais capable en littérature ou dans les formes de décanter, de réécrire l'histoire au moment où ça sort. C'est-à-dire que les choses qui vont rester les choses de très grande qualité, en général, la plupart du public les rate au moment où elles sortent. Et c'est au bout d'un moment, quand ça se décante, qu'on se rend compte qu'il y a des périodes comme ça, on a l'impression qu'il y a 10 fois trop de titres, et qu'en fait, peut-être que dans cette période-là, il y a eu énormément d'excellents titres. On les a ratés sur le coup, dans 5 ans, on va se rendre compte que c'était une année absolument extraordinaire.
Oui, le tout, c'est que la bande dessinée existe encore dans 5 voilà. ans, on est d'accord.
Oh, mais je pense qu'elle existera, il y a 4000 titres qui sortent par an, c'est monstrueux en fait. Alors c'est beaucoup trop pour être épongé en faisant vivre correctement tout le monde, c'est ça le problème. Les auteurs ont des tirages de plus en plus petits et puis en vivent de moins en moins. Quoi. Mais par contre, les livres continueront à sortir, ça, il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup de lecteurs en fait, le lectorat augmente lui aussi.
Et alors, lorsque on lit donc l'exemplaire consacré donc à l'intelligence artificielle, à la fin, on connaît tout sur l'intelligence artificielle à l'heure actuelle ?
Non, pas du tout. Non, là, pour le coup, c'était impossible. On a abandonné dès le début l'idée de le faire parce qu'on a découvert surtout qu'il y avait énormément d'écoles, énormément de débats, que c'était en réalité un sujet très très compliqué. Donc c'est plutôt une balade dans le sujet que quelque chose de complet. Même si on a essayé de parler vraiment de l'histoire et puis de montrer toutes les hésitations de cette science qui a plusieurs fois redémarré, puisqu'elle a eu des grands moments où les gens y ont cru énormément et puis c'est retombé comme un soufflet à plusieurs occasions. On a régulièrement dit que l'intelligence artificielle était morte d'ailleurs. Et puis elle renaît régulièrement, comme en ce moment où on en reparle à nouveau, ce qui n'était pas le cas quand on a commencé le livre d'ailleurs, c'était pas à ce point là. Y avait quelques films, ça c'est vrai, mais par contre tous les débats sur le deep learning etc. n'étaient pas encore arrivés au public. Voilà. Et on ne savait pas que, ou on savait à peine que Facebook, Google et tout investissaient énormément dedans quand on a démarré. C'est pendant qu'on l'écrivait qu'on a vu tout ça.
Et alors ça me fait me demander combien de temps il faut pour écrire un livre avec cette collection-là ? Comment ça fonctionne ?
Alors c'est très variable. Je crois que l'éditeur aimerait que chaque livre se fasse en 5 mois à peu près, quelque chose comme ça. C'est un petit peu ce qu'ils se disent. Pour celui que je fais sur Internet... on a mis un petit peu plus de temps parce qu'on a commencé très tôt mais on a fini d'ailleurs beaucoup plus tôt. Il pourrait sortir maintenant mais il sortira que dans 6 mois. Pour celui-ci, je crois qu'on a respecté à peu près les 5 mois ou quelque chose comme ça. Voilà, avec des petites frustrations hein. Si on avait eu 2 mois de plus, on aurait pu faire d'autres choses certainement, et surtout rencontrer plus de gens. On a rencontré beaucoup de gens dans des laboratoires, mais on pouvait en rencontrer d'autres. Voilà.
Et j'imagine qu'il y a plusieurs phases en fait. Il y a une grosse phase de documentation de ton côté et ensuite un ping-pong avec le dessinateur. Comment ça se passe ?
Alors, juste dans mon cas, c'est vraiment pas racontable. C'est trop compliqué. Ça a commencé, je devais faire ce livre avec Daniel Gossens, qui est un grand auteur de bande dessinée humoristique aussi d'ailleurs, de Fluide Glacial, d'une toute autre génération, qui était mon collègue à Paris 8. Sauf que lui était maître de conférence en intelligence artificielle. C'est son métier de jour, disons, et puis il était auteur de bande dessinée. Et dès le début, il m'a dit, c'est super ce livre, faut le faire et tout, mais ça se fera pas avec moi. Et pendant plusieurs mois, on a fait semblant qu'on faisait le livre ensemble quand même, et il m'a montré des choses et tout, puis Marion Montaigne est rentré dans la boucle, on a travaillé tous les trois. Et
il avait peur de trop devoir te corriger, entre guillemets, puisque tu disais que tu n'étais pas spécialiste alors que lui l'était.
Alors,
qu'est-ce qui l'a empêché en fait
de le faire ? Je pense pas que c'est ça, c'est que... Il y a plusieurs choses, mais une des choses, c'est que lui est dans une branche spécifique de l'intelligence artificielle et il ne se voyait pas parler de même à la rigueur de ce qui se fait maintenant. Lui, il est plutôt dans une tradition d'intelligence artificielle très symbolique des années 70, très mathématique en fait. Et il ne connaît pas forcément ce qui se fait d'autre. Mais surtout, il n'a jamais travaillé avec personne. Et travailler avec quelqu'un d'autre, c'était difficile pour lui. Être enseignant, puisque c'est ce qu'il fait, c'est son métier, c'est-à-dire nous apprendre des choses, nous expliquer, nous faire des schémas et tout ça, il l'a fait. Mais il n'est pas au générique du livre, c'est un peu l'auteur caché en fait. Donc voilà, ça c'est assez spécifique. Sinon dans les autres cas, souvent les auteurs ont déjà écrit plusieurs livres sur un sujet. Voilà, par exemple l'histoire de la prostitution, Laurent de Sutter a déjà beaucoup écrit dessus. Et du coup, c'était assez facile. Je pense que cette documentation était constituée. Il n'y a pas eu d'enquête, vraiment. Tout dépend beaucoup des sujets, en fait. C'est un peu, je ne vais pas dire à la carte, mais si j'ai compris ce que m'ont dit la directrice, enfin l'éditrice, pardon, et le directeur de collection, excusez-moi, il n'y a pas deux livres qui se sont faits pareil. Voilà. Y en a qui se sont faits dans la douleur, d'autres qui se sont faits au contraire dans le plaisir pour tout le monde. Les rencontres entre les auteurs ont toujours été très bien. C'était généralement des gens qui ne se connaissaient absolument pas, qui ne connaissaient pas le travail les uns des autres.
Ce qui ça, c'est orchestré par l'éditeur.
C'est l'éditeur qui fait vraiment les mariages comme ça. Ce qui n'est pas mon cas non plus, je connaissais Marion Montaigne pour le coup. Mais sinon, la plupart, c'est comme ça. Et je sais que. Pour le minimalisme, Yoren Gerner et Christian Rosset se connaissaient, mais sinon les autres se connaissaient pas.
Et pour parler de la cuisine interne, vous êtes considéré auteur à part égale sur le livre, entre le dessinateur et l'auteur ?
Non, en bande dessinée, c'est jamais le cas. En général, le scénariste a un pourcentage plus petit que le dessinateur, donc on n'est pas à part égale du point de vue financier. Mais sinon, on est auteur, bien sûr, ensemble.
D'accord.
Mais comme le travail n'est pas du tout le même, en bande dessinée, on sait qu'il y a un temps infini pour faire tous les dessins. Voilà, ça se passe comme ça, quoi.
Et Daniel, dans tes collaborations, tu as déjà travaillé avec un dessinateur ?
Non.
Et est-ce que ce type de travail te tente ?
Ah oui, mais en tant que fou de BD, oui, forcément. Forcément, il y a plein d'applications qu'on peut imaginer, ouais. Ouais, ouais.
Et le Lombard, ils sont pas là pour un des prochains, des prochains livres ?
Là, je crois qu'ils sont tous à Saint-Malo. Marion Montaigne est à Saint-Malo. Donc, elle adorerait être avec nous, mais elle était marraine du festival Quai des Bulles, donc c'était impossible pour elle de venir avec nous. Voilà.
Il faut attendre le tome quantique pour les avoir aux deux endroits au même moment.
Voilà, exactement.
Et quel sujet te tenterait, par exemple, sur ce type de collaboration? Enfin, toi, dans tes...
Bon, les trucs que je connais, moi,
il
c'est
suffit
surtout...
de te donner un sujet pour que tu en deviennes spécialiste dans 2 ans, c'est ça?
Non, ben moi, je sais peu de... j'ai quelques domaines très spécifiques de compétences. Moi, sorti de la littérature et du cinéma, le reste, je simule. Bon, comme je travaille depuis longtemps, notamment dans les journées avec des scientifiques qui, eux, arrivent à m'expliquer les choses, j'ai suffisamment de culture scientifique pour savoir à partir de quel moment je comprends pas vraiment. À partir de quel moment je suis un singe savant, mais en fait je comprends pas ce que je dis. Mais non, moi j'ai des domaines très très spécifiques de littérature et cinéma, de l'imaginaire, en particulier domaine anglo-saxon. Et voilà. Enfin, moi ça s'arrête là. Le reste, hein, je suis un imposteur. Par contre, effectivement, après, l'autre cas, c'est comment on utilise ça dans un cadre d'enseignement. Mais là, je veux dire, il y a rien à faire, tout est fait. Tout est fait.
Je veux dire, ça peut être un sujet, un support de cours.
Oui, complètement. Ça peut être une entrée géniale. Ça peut être une intro géniale dans une liste de lecture. On peut prendre des plans, je veux dire, pour expliquer des concepts. Il y a des choses qui sont un peu sèches. Alors, soit il y a des profs qui arrivent, je veux dire, à faire du café théâtre, qui sont suffisamment passionnés par ce qu'ils font pour être relativement intéressants. Puis il y a des moments, il y a des sujets très très secs. Hein. Je veux dire, travailler sur le droit d'auteur. Ne serait-ce que ça, il y a des moments, je veux dire, il y a certainement certaines des choses, des retours historiques ou autres, avec une bonne planche de BD. Bon, ça permet de capter l'attention. Après, une technique de cours de base, hein, qui à partir du moment où on met une grosse image de base avec un écran, tout d'un coup, les gens sont attentifs. Alors que, voilà, ça relève pas trop longtemps, hein, parce qu'il y a soulèvement de l'attention et puis il y a sommeil derrière. Hein, donc, faut vraiment bien gérer l'éclairage. Mais de toute façon, tous les supports d'image sont hyper intéressants en soi. Et puis il y a une bête question que on apprend tous avec différents canaux. Il y en a qui sont plutôt visuels, hein, plutôt auditifs. Il y en a qui ont besoin de parler, d'écrire. N'importe quelle multiplication des canaux permet de s'assurer qu'on arrive à faire passer les infos à tout le monde. Mais là, je suis dans de la pure théorie pratique didactique dans lesquelles. Mais bien sûr qu'on veut des supports cool. Sauf quand on arrive à des étudiants, ils disent, vous allez lire le bouquin là. Tiens, tu vois le machin là. Bam. Tiens, vas-y. Chapitre 1, chapitre 2. Bon bah par rapport à lui dire tiens là, il y a ça en BD, c'est évident qu'on n'a pas la même proportion de gens qui font le travail bibliographique.
Donc tu conseilles cette collection dans toutes les BU de France, quoi.
Ah oui, au moins.
Moi, je conseille à mes étudiants, par exemple, le minimalisme. C'est donc des étudiants en art. Je trouve que c'est une très bonne introduction. Ça marche vraiment bien. Et voilà, il faut qu'il l'ait lu. Je sais que Jean-Louis Dessalles, qui est prof à Télécom Paris Tech en intelligence artificielle, conseille notre livre à ses étudiants en première année, ce qui nous a fait plaisir. Il a mis ça sur son blog, on n'en revenait pas. Je sais que le livre de Marion Montaigne, Riche pourquoi pas toi, qu'elle a fait avec les Pinson Charlot, qui est de la sociologie des riches, qui vous apprend pourquoi vous n'êtes pas riche. Si vous avez envie de savoir pourquoi, lisez-le, vous verrez. Et pourquoi vous ne pourrez pas le devenir. Ça vous explique que vous n'êtes pas fait pour, vous n'avez pas été éduqué pour. C'est très intéressant. Eh ben, celui-ci est conseillé aux étudiants en sociologie. Dès la première année, on leur dit de le lire parce que ça fait vraiment le point sur les travaux des Pinson Charlot. C'est très bien. Par ailleurs, c'est drôle. C'est du Marion Montaigne.
Il devrait le conseiller aux Beaux-Arts aussi, non?
Oui. Alors, aux Beaux-Arts, il y a aussi là la sociologie de l'artiste contemporain qui explique aussi pourquoi ça va être dur. Et voilà. C'est encore un cas un peu plus spécifique. Évidemment.
Jean-Noël, tu as un parcours artistique puisque tu as fait donc tu as été formé aussi à l'École nationale des beaux-arts de Paris.
C'est vrai.
Quand tu travailles avec un dessinateur ou une dessinatrice, tu t'empêches pas des fois de la corriger un peu ou
vais corriger Marion Montaigne. Ce serait impossible. J'ai vraiment une admiration énorme pour elle. C'est une dessinatrice extrêmement efficace. Elle vient un peu du dessin animé, donc elle a cette capacité à synthétiser des mouvements et tout qui est toujours parfaite, quoi. L'autre jour, elle regardait mes dessins, elle me disait, bon, tu dessines pas mal et tu dessines mieux que certains. Ça m'a fait plaisir, mais je sais pas comment le prendre. Mais ceci dit, je profite de cette collection, moi, pour faire des dédicaces dessinées. Je suis un auteur de bande dessinée frustré et du coup, je fais des dédicaces comme les auteurs de bande dessinée. Je dessine sur les livres. C'est assez rigolo. Mais non, j'oserais pas la corriger, d'autant que je suis mauvais en narration. J'ai toujours essayé de faire de la bande dessinée, mais bon, il y a des règles que je suis capable d'enseigner, en plus, c'est ça le pire, mais pas de les appliquer moi-même sur le mouvement de l'œil dans la case, comment avoir un certain dynamisme et tout ça. Je peux l'expliquer à mes étudiants, je peux pas moi l'appliquer. C'est un handicap, je sais pas. Mais donc je pourrais pas. avoir quoi que ce soit à redire, d'autant que là, on m'a fait travailler avec des auteurs vraiment très, très talentueux.
Tu as des séances de dédicaces prévues là sur le festival ?
Mais j'en ai fait plein déjà. Et je continue, j'en ai une tout à l'heure, je crois.
Bon, ben j'espère que vous irez un petit peu l'embêter pour continuer la conversation.
Oui, je fais des dédicaces très longues, mais je fais plein de petits traits. oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos actualités respectives ?
Je suis la campagne américaine avec beaucoup d'attention en ce moment, j'ai un peu peur.
Tu parles d'Halloween ou de la campagne ?
C'est la même. Dans les actualités, on vient. Nous, oui, moi j'ai un bouquin co-dirigé qui vient de sortir, ça s'appelle Citoyenneté spéculative, sur la notion de citoyenneté
ça,
en science-fiction.
C'est un bon sujet en bande dessinée. Ouais.
Ça pourrait faire un très bon sujet qui est assez froid, qui est assez. Voilà, on est en train de finir un truc sur le temps aussi, et on continue avec des collègues qui sont là, avec Estelle Blanquer, etc.
Si c'est le temps, je crois qu'on te revoit l'année prochaine alors peut-être.
Ouais, normalement on aura le bouquin qui sera prêt. Je suis en train de finir un énorme truc sur l'écriture de la temporalité en SF. D'ailleurs, à cause d'un article dont le titre a été proposé par quelqu'un qui va prendre ta place juste après, là, et c'est à cause de lui que je me fais un travail énorme. Et voilà, puis on continue un cycle. Là, on était à Bordeaux la semaine dernière, justement, avec la collègue dont je parlais, où on va commencer à monter un truc. Ce sera un observatoire de la science-fiction et des pratiques, en fait, de la science-fiction dans l'enseignement, à tous les niveaux. Et donc, on va continuer à essayer de creuser ça et de toutes les manières possibles, même si c'est assez fermé, de continuer à pousser la science-fiction notamment et les supports populaires et alternatifs dans l'enseignement, mais de manière intelligente. C'est-à-dire dire que c'est pas parce qu'on utilise de la BD ou de la SF qu'on fait moins bien, au contraire, on va faire mieux.
Et Jean-Noël, donc, c'est un prochain BDTech
Oui, notamment. Alors, mais en tout cas, il faudra qu'on se reparle, parce que cette histoire de science-fiction dans l'enseignement, ça m'intéresse beaucoup. Et à l'école d'art du Havre, on fait souvent des workshops. Alors, workshop, je ne sais pas si vous connaissez, ça se fait beaucoup en école d'art. C'est des sessions un peu intensives où on travaille sur un sujet. Et on a travaillé, par exemple, sur la fin du monde, une année. Ça a dégénéré en livre. On a travaillé sur tout un tas de sujets comme ça. Cette année, c'était la peur. C'était moins de la science-fiction spécifiquement, mais on utilise beaucoup la science-fiction. Et j'ai un autre collègue qui s'appelle Stéphane Troicarré, qui était jury l'an dernier ici pour les courts-métrages, qui lui aussi utilise la science-fiction dans ses cours. Donc on est assez SF, en fait, à l'école d'art du Havre. Voilà. Donc mon actualité, c'est donc ce livre sur Internet avec Mathieu Burnia, et puis avec mon épouse Nathalie, qui est ici. On est en train de faire Copains des Geeks aux éditions Milan. Vous voyez les éditions Milan qui font Copains des Bois, etc. C'est des livres pour les 8-12 ans. Et donc là, c'est un livre pour les 8-12 ans sur l'histoire de l'informatique, comment on programme, apprendre la programmation, des choses comme ça. Voilà. Comment fonctionne Internet. Voilà. C'est ça notre actualité commune. Voilà.
Et le festival est un lieu de rencontre pour des projets, pour des idées. Enfin, la preuve peut-être.
Alors je sais pas, sûrement, mais bien sûr c'est très intéressant de rencontrer des gens qui s'intéressent à ça. J'étais jamais venu aux Utopiales et je trouve ça vraiment bien. C'est un festival très très cool, je trouve, par rapport à ce que je connais en bande dessinée, au contraire, qui est souvent un peu plus l'usine, en fait. On rencontre les auteurs, mais on rencontre pas tellement les gens. Ici, on sent qu'il y a une espèce d'horizontalité entre le public, les auteurs, les conférenciers et tout. C'est très plaisant, quoi. Voilà. J'aime bien les Utopiales.
Si vous avez des petites des questions avant qu'on puisse libérer nos deux invités, je vous passe le micro.
Bonjour. Merci pour la collection. J'en ai acheté 3 par hasard le mois dernier et ils sont vraiment excellents. Je me demandais, parce que je lisais aussi ces temps-ci d'autres livres vulgarisateurs en bande dessinée, comme Economics,
oui.
La machine à influencer sur les médias et une histoire populaire des États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu le lancement d'une nouvelle tendance pour apporter au grand public des choses qui pourraient paraître difficiles à comprendre et qui sont pourtant fondamentales pour tous?
Si, alors ça on le fait depuis les années 70, hein, mais ce qui est nouveau, c'est de le faire de manière sérieuse, je trouve. Pour vraiment bien connaître, il y a eu peu de gens. Il y avait Francis Mas qui était là hier et qui lui faisait des choses assez intéressantes aussi, enfin très intéressantes. C'était très bien et il prenait les choses au sérieux, mais sinon souvent c'était pas le cas. Et là il y a une vraie tendance. En fait, pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'ai invité dans mon université pendant pour une conférence David Van Der Meulen, donc que je connaissais juste comme auteur de bande dessinée, pour qu'il parle à mes étudiants. Et Enfin, j'ai commencé par inviter Lisa Mandel la semaine d'avant, qui a raconté à mes étudiants que elle allait lancer une collection, la fameuse collection Sociorama chez Casterman, qui serait donc de la science en bande dessinée. Et la semaine d'après, David Van Der Meulen qui nous a annoncé qu'il lançait cette collection. C'était un hasard incroyable, finalement. Grâce à moi, en plus, j'ai vendu la mèche, malheureusement, ils l'ont su tous les deux. Mais ça leur a confirmé qu'il y avait un truc dans l'air, quoi. Il y a tous ces livres qui peuvent être vraiment bien, quoi. L'histoire des États-Unis, c'est vraiment du sérieux. Enfin, tout ça, ce sont des bons livres, en plus. Et du coup, c'est vraiment un bon moment. Il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Et je pense que ce qui est nouveau, c'est de prendre les sujets au sérieux, en fait, et de le faire vraiment bien. Voilà.
Attendez, il y a votre intelligence artificielle qui...
Est-ce que vous pouvez nous dire les différents...
Les titres, hein. Alors, bah oui. Donc, dans les titres, il y a L'Univers par Hubert Reeves. Donc, Hubert Reeves, c'est quand même quelqu'un. Alors, c'est un titre très intéressant parce qu'il a déçu certaines personnes qui s'attendaient à ce qu'on raconte tout l'univers. Mais c'est beaucoup, quoi, pour 56 pages... alors qu'en fait non, c'est pas ça, c'est une méditation philosophique sur l'univers qui explique comment les choses de plus en plus compliquées arrivent jusqu'à, c'est sa thèse en fait, à l'intelligence, et voilà, pour lui l'intelligence c'est qu'une suite de la complexification de l'univers finalement, et la créativité notamment, voilà, et c'est vraiment un bon livre. Et voilà, il va pas vous apprendre tout sur les étoiles, etc. C'est pas ça, mais c'est vraiment un livre philosophique comme ça, vraiment intéressant. Bon, il y a Les Requins. Alors, il l'a fait avec Daniel Cazanave, qui est un très bon auteur. Les Requins, c'est par Bernard Serret, donc le grand spécialiste des requins, et puis Julien Solé. C'est vraiment un livre sur les requins et les raies. Et on apprend tout, mais même des choses qu'on ne peut pas imaginer sur les requins. C'est très étonnant. Et on apprend aussi que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Par exemple, les gens disent que les requins sont des animaux préhistoriques, qu'ils n'ont pas évolué, etc. Ce n'est pas vrai. Ils ont évolué comme tous les singes, par exemple, comme nous. Et voilà. Le minimalisme par Christian Rosset et Yoren Gardner. Ça explique le minimalisme en musique, en architecture. Oui. Ah, pardon. En art. Et donc, c'est très bien. Donc je n'ai que 3 minutes pour finir. L'histoire de la prostitution par Laurent de Sutter et Agnès Maupré. Agnès Maupré dont je vous conseille Milady de Winter, qui est une super série. C'est une jeune femme très très douée. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai L'Artiste Contemporain par Nathalie Heinisch et par Benoît Ferroumont, qui raconte l'artiste contemporain. Le tatouage par Jérôme Pierrat et Alfred, qui raconte le tatouage. Où on apprend que le tatouage, ça existe depuis très très longtemps, mais que ça a aussi une histoire récente, en fait, et c'est intéressant pour ça. Le Nouvel Hollywood, c'est mon préféré de la collection. C'est celui qui vous explique le cinéma des années 70, et c'est très très étonnant. On voit comment il y a eu un cinéma un peu dépressif, très spécial, en science-fiction, passionnant d'ailleurs, et comment il est mort, tué par Star Wars, notamment. Ensuite, Le Hasard, extraordinaire. Le hasard, c'est par Ivar Ekland, qui est un des plus grands mathématiciens du monde, qui aurait dû avoir la médaille Fields, mais il était trop vieux. Il faut avoir fait ses découvertes avant 40 ans pour que ça arrive. Excellent livre, avec Étienne Lecroix. Après, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai. Le droit d'auteur, par Fabrice Snow et puis Emmanuel Pierrat. Et enfin, le heavy metal, par Pompon. Et il manque Le Féminisme par Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu, l'auteur des Crocodiles, pour ceux qui connaissent ce blog et le livre, et qui est vraiment très très réussi parce que ça explique en 7 points très fondamentaux le féminisme, et c'est vraiment réussi. Voilà.
Bon, je vois qu'il y a plein de monde dans la salle, ça doit être pour la table suivante. Donc je vous remercie. Merci Monsieur Jean-Noël, merci Daniel. Et à très bientôt, donc autour de l'exposition de la BD Tech. N'hésitez pas à aller les embêter.